J-89 avant le premier tour de l'élection présidentielle. On en parle ce matin avec nos trois invités. François Calfon est membre du bureau national du Parti Socialiste. Bonjour François.
Bonjour.
Bruno Jeudy, éditorialiste politique, rédacteur en chef à Paris Match.
Bonjour Dimitri.
Bonjour Bruno, vous êtes en voisin, vous êtes juste au-dessus hein, d'Europe 1.
En dessous.
Ah pardon, j'ai toujours cru que vous étiez au quatrième.
Il monte au septième ciel.
Et Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion, est avec nous également. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Dimitri.
On va parler de cette campagne Covidée avec cette réunion qui va se dérouler tout à l'heure à Matignon. Alors en partie, majoritairement à distance, Jean Castex réunit un comité politique afin de discuter de l'organisation de la campagne en temps de crise sanitaire. Et seront présents donc les représentants des partis qui sont présents au Parlement, mais aussi tous les candidats déclarés. Ça fait quand même pas mal de monde, 40 personnes dans cette affaire, cette réunion visant à se mettre d'accord sur les règles du jeu, si je puis dire, les règles de la campagne. On a deux sentiments, Bruno Jeudy, je commence avec vous. D'un côté, on se dit qu'effectivement, c'est bien que le gouvernement se préoccupe de ce que pensent les protagonistes de cette campagne. On a aussi l'impression qu'à 89 jours du premier tour, il était temps de s'y mettre, là, qu'il y a un petit peu d'improvisation, là.
Oui, il est temps de s'y mettre. Alors, Emmanuel Macron, lors de ses vœux, avait essayé de rassurer les Français, ou en tous les cas, leur avait dit qu'il veillerait à ce que les élections se déroulent aux dates prévues par le calendrier. Parce que vous savez que la date de la des élections présidentielles et législatives sont fixées en Conseil des ministres, donc des dates ont été fixées, et il a dit j'y veillerai. Après, pour ce qui est de l'organisation des élections, le problème c'est qu'il n'y a pas que le gouvernement qui veille, il y a aussi le Conseil constitutionnel, donc la réunion de ce matin est une réunion où il n'y a pas tous les protagonistes. Mmh. Et j'imagine qu'il y a aussi une autre question qui est un corollaire important de ces élections, c'est la question des parrainages.
Oui.
Cette question-là, là, je pense que le gouvernement ne peut plus y faire, grand-chose.
Bon, est-ce qu'il y a un vrai sujet autour de la question des parrainages, ou est-ce qu'on n'est pas un peu dans la comédie? Ça revient tout le temps, c'est un marronnier des campagnes présidentielles.
Un peu des deux, Dimitri, sans doute, un peu des deux. Mais la dernière fois, vous avez raison, la dernière fois, ça avait déjà été soulevé pendant la campagne présidentielle, mais il ne s'est rien passé entre-temps, et on retombe sur la même question. Faut-il continuer à le système des parrainages avec les maires? Faut-il laisser la publicité qui est faite autour des 500 parrainages, c'est-à-dire le fait de les révéler, ou alors il faut-il s'en remettre à un autre système? C'était là la ritournelle qu'on entend à chaque présidentielle, sans qu'on essaie de réfléchir à un autre système.
François Calfon, pour le Parti Socialiste, vous avez participé à plusieurs reprises à des campagnes, à des élections, notamment présidentielles. Ce qui se passe là pour 2022, cela vous paraît-il exceptionnel? Évidemment, il y a les conditions du Covid, et c'est largement du Covid dont il va être question dans cette réunion tout à l'heure en fin de matinée à Matignon.
Bah écoutez, moi je pense qu'il y a une forme d'enfumage de la part du pouvoir politique.
Oui.
Qui veut refaire ce qu'il a observé à son détriment dans les élections municipales et régionales, c'est d'ailleurs de faire une campagne sous Covid. Et d'une certaine manière, maintenant qu'on a le recul sur les déclarations du président de la République, ça n'avait vocation qu'à une chose, c'était à créer un climat malsain d'opposition des Français les uns aux autres. D'ailleurs, j'observe que quand les hommes politiques déconfinent le langage et parlent comme on dit cash, c'est-à-dire parlent avec une grande grossièreté, pensant que le peuple parle comme ça, eh bien on déconfine aussi la violence dans la société. Hein. C'est-à-dire que vous avez eu la même semaine, Madame Pécresse qui ressort le Karcher, d'ailleurs c'est un peu un truc de comique troupier fatigué que de le faire.
Oui.
Le président de la République, c'est pas rien quand même, un président de la République qui parle comme ça. Et vous avez une violence qui se diffuse dans la société.
On va parler de la violence.
Non mais attendez, oui. Sur fond de Covid. Et j'ai envie de vous dire que la manière dont vos confrères et un certain nombre de collègues de la politique ont parlé des décisions du Conseil constitutionnel sur la liberté de réunion comme si c'était un vulgaire bureau de l'administration est problématique. Mmh. Hein, c'est-à-dire que c'est le moment démocratique majeur. Et je vois que... petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein, et qu'on est en train de confisquer la présidentielle sous couvert du Covid, et qu'il y a bien sûr là une forme de manipulation, une tentation de confiscation de la part du pouvoir, parce qu'on sait, on l'a vu au municipal et au régional, cela profite au pouvoir en place.
Mais c'est vrai, Emmanuel Ducamp, on va reparler de la violence, François Calfon, si vous le voulez bien, mais on termine d'abord sur cette réunion, Emmanuel Ducamp, parce que c'est vrai que là, on sent qu'il y a des questions qui se présentent maintenant, qu'on aurait pu se poser il y a un an. Est-ce qu'il faut instaurer le vote à distance, par correspondance? Quel risque d'absence abstention, comme on a pu le voir au régional, au municipal, etc., etc. Donc des questions vraiment d'organisation.
Alors c'est vrai que ce sont des questions qui sont primordiales et qu'on aurait sans doute dû se poser avant, parce que ce qui est passé pour les municipales ou les régionales, les municipales et les régionales, c'est pas la présidentielle, c'est pas une présidentielle avec des meetings nationaux, etc. Et je pense que en plus c'est une occasion manquée, parce qu'il me semble que la question du vote à distance était dans le programme d'Emmanuel Macron. Donc sans doute, oui, il aurait fallu s'en préoccuper avant.
Il y a une jurisprudence états-unienne, si je peux dire.
Oui, après, les technologies ne sont pas les mêmes, et la France n'est pas les États-Unis. Après, qu'on recherche le consensus sur ces questions, c'est très bien, et je pense que vraiment, il faut que ce soit une réflexion de fond qui intègre toutes les parties, et évidemment le Conseil constitutionnel. Et puis, je crois que, sur le fond, c'est une bonne chose de se poser des questions sur les modes démocratiques. C'est vraiment une bonne chose. La démocratie évolue, les réseaux sociaux sont là dans la démocratie. On voit toutes ces tentatives de primaire populaire qu'il va peut-être falloir prendre en compte à un moment d'une manière ou d'une autre. Mais il y a une question de timing. Effectivement, on ne va pas refaire la Constitution et on ne va pas refaire les règles du jeu à 90 jours, 89 de l'élection présidentielle.
Ouais, alors cette question des parrainages, vous avez commencé par en parler tout à l'heure, Bruno, jeudi. Juste très, très, très brièvement, après j'aimerais qu'on parle du sujet de la violence qui a déjà été amorcée par François Calfon, parce qu'il fait le lien sur ce sujet des parrainages. Pensez-vous vraiment, Bruno, qu'il y a un risque qu'un candidat majeur, j'entends par là quelqu'un vraiment de représentatif, qui fasse plus de 5%, peut-être même plus de 10%, puisse ne pas se présenter? On pense à Marine Le Pen, on pense à Éric Zemmour, on pense à Jean-Luc Mélenchon. Je crois que ça n'est jamais arrivé, qu'un candidat de cette envergure dans les élections précédentes n'ait pas pu se présenter à cause du verrou, plutôt du filtre des parrainages.
Alors Jean-Marie Le Pen a été éliminé à cause des 500 parrainages, mais à l'époque, il ne faisait pas 5%, c'était en 1981, et ensuite, il a plutôt eu de grandes difficultés. Je ne sais plus à quelle présidentielle, il a eu 507 parrainages, donc c'est pour vous dire que ce n'est pas forcément une épreuve.
Et Marine extrêmement, Le Pen, un peu plus de 600 à peine.
Extrêmement, 2007, extrêmement facile. Oui, potentiellement, l'un de ces trois peut très bien avoir des difficultés à réunir les 500 parrainages. Ouais. Donc, effectivement, ça poserait un problème démocratique. N'imaginons pas les trois. Ouais. À mon avis, ça me paraît impossible. Il y a un peu aussi de l'utilisation de cette arme comme un élément de communication de la part des candidats. Ça fait partie des campagnes. Mais bon sang, on se repose la question tous les 5 ans. Donc, à un moment, il faut essayer de la trancher, parce qu'on peut pas passer à un moment 15 jours, 3 semaines de campagne. Question-là. Je ne sais pas, moi je ne suis pas législateur, donc c'est à eux de réfléchir à la meilleure solution.
Moi je ne dis pas tant pis pour eux.
C'est ce qu'a dit Anne Hidalgo, hein, si jamais ils ne pouvaient pas rassembler les parrainages.
Non, ce n'est pas tout à fait ça. Je ne dis pas tant pis pour eux, je souhaite que la démocratie puisse s'exprimer. Ensuite, c'est pareil, on ne peut pas s'asseoir sur un filtre qui est le filtre des élus locaux, c'est-à-dire que c'est une forme de démocratie. La respiration démocratique dans ce pays, c'est les scrutins nationaux, les élus locaux d'ailleurs.
Mais est-ce que c'est la démocratie? Non, mais quand des élus locaux disent: ben moi, j'ai peur des financements de ma collectivité, peur de la réaction des administrés.
Je viens à ce qui pourrait être ma proposition, puisque je suis d'accord avec Bruno. Je dis que ça se repose à chaque élection et que les choses ont un peu changé. On pourrait parfaitement avoir un système hybride avec moins de parrainage d'élus, parce que c'est une sorte de plafond de verre. Oui. Hein, après tout, quand même, quand vous avez 200, une opinion, vous exprimez, vous êtes élu, c'est pas à titre personnel, c'est comme élu. Donc le fait que ce soit potentiellement publié n'est pas problématique. Mais on pourrait en avoir moins. Et puis par ailleurs, mixer avec la proposition qui était une proposition, je crois, de l'organisation démocratique sous Jospin et qui était reprise par Mélenchon, d'avoir entre 100 et 200 000. Ça s'est ouvert à la discussion par l'âge de citoyens.
Alors moi, je dis toujours à ce moment-là, mais McFly et Carlito, ils ont 7 millions de followers sur YouTube.
C'est pour ça que vous
regardez les élus. Donc 100 000 parrainages citoyens.
Oui, mais on est effectivement dans cette nécessité d'éviter les candidatures complètement farfelues qui pollueraient le débat et qui n'amèneraient strictement à rien et qui n'auraient aucune légitimité politique.
On a quand même eu des candidats qui parlaient des extraterrestres aux élections présidentielles.
Oui, c'est vrai.
Pas citer son nom, mais en deux fois.
C'est vrai, et ils avaient passé le barrage des 500 signatures, mais parce que ce sont des candidats qui passent les 5 ou les 7 ans, qui avaient passé les 5 ans ou les 7 ans de la précédente mandature à labourer le terrain et à payer des équipes pour le faire. Mais effectivement, peut-être que, moi je suis assez d'accord avec François Calfon, le filtre des élus, c'est bien, et c'est vraiment aussi important qu'il y ait une forme de légitimité, qu'on sente qu'il y a quand même une sorte d'assentiment à la confrontation politique avec des idées. Mais effectivement, comme je le dis, la démocratie évolue et peut-être qu'il faut le prendre en compte d'une question ou d'une autre. Finalement, peut-être qu'on peut aussi s'inspirer de ce qui se passe en Suisse. Vous savez, on a en Suisse cette possibilité de porter des lois à l'échelle du pays en ayant un nombre suffisant de signatures. Pourquoi pas ?
Le référendum d'initiative citoyenne, si je puis dire. Vous gardez la parole, Emmanuel Ducrot, puisque je voudrais qu'on parle aussi de la violence à l'encontre des élus. François Calfon l'a dit tout à l'heure, la violence s'invite, y compris dans la bouche du président de la République, quand il parle de son envie d'emmerder les non-vaccinés. Est-ce que ça n'est pas déjà de la violence? Mais il y a aussi ce bilan du ministère de l'Intérieur qui nous dit près de 1200 élus ciblés les 11 premiers mois de l'année dernière. C'est en hausse de près de 50% ciblés par des insultes, des agressions physiques, des menaces de mort, leurs véhicules dégradés, leur domicile ciblé, etc., etc. Cette violence à l'encontre des élus, qu'est-ce qu'on peut en dire, Emmanuel Ducrot?
Alors déjà, que c'est pas nouveau, hein, la vie politique, ça a toujours été violent et qu'il y a des poussées. Je m'étais amusée, c'est pas le mot, mais j'avais pris le temps à l'été 2019, au moment du vote du CETA, de faire le décompte.
Donc c'est l'accord de libre-échange avec le Canada.
Ouais. J'avais pris le temps de lire la presse régionale, qui était la seule à en faire état à ce moment-là, et qui répertoriait toutes les dégradations, déprédations, menaces sur les élus locaux qui avaient voté le CETA. Il fallait savoir qu'à cette époque-là, il y avait une liste qui circulait et qui compilait leurs adresses de permanence, leur mail à l'Assemblée nationale, et qui invitait les citoyens à leur demander des comptes. Je trouve que la formule est déjà extrêmement violente. Et j'avais répertorié comme ça des dizaines et des dizaines de déprédations diverses et variées, de menaces de mort, etc. Alors ça n'était jamais aller jusqu'à la violence physique comme on l'a vu à Saint-Pierre-et-Miquelon il y a deux jours.
Voilà,
mais il y avait déjà ce climat qui était lourd, et je crois que ça pose quand même vraiment des questions. Le mandat impératif n'existe pas en France. On ne peut pas aller demander à un député des comptes parce qu'il n'a pas respecté ce qu'on croit soi-même en tant qu'électeur être ce qu'il faut faire. Enfin, je veux dire, c'est un consensus. Et là, les comptes aux députés, on lui demande au moment de l'élection. On ne lui demande pas physiquement en faisant pression. Sur lui.
Mais je voudrais relire une phrase de Jean-Pierre Raffarin qui date de début 2020. On est à la fin du mouvement des retraites, avant la phase Covid, si je puis dire. Et il dit, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, hein, que d'abord les responsables, d'abord les élus, les parlementaires, fassent attention à leur langage, à leur brutalité, à leur comportement. C'est un peu ce que vous disiez, François Calfon, tout à l'heure.
Hein. Oui, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on a trumpisé l'ensemble du champ politique. C'est-à-dire que Mme Pécresse, pour ne pas la nommer, peut parler pendant des jours et des jours. Personne ne fera aucune reprise de ce qu'elle dit. Anne Hidalgo ne cesse de faire des propositions. La culture du clash n'est pas la sienne. On ne reprend pas. Par contre, vous parlez du Karcher, on reprend. Vous parlez, on va emmerder les citoyens. Vous prévoyez, vous en faites un axe de communication, on reprend les choses. Deuxième élément, donc oui, bien sûr, que le langage politique trumpisé, il y a une généralisation de la trumpisation, c'est théorie à la Bannon, produit ça. La deuxième chose, c'est qu'on va sortir de studio. Ils ne le disent pas parce qu'ils sont journalistes, mais moi je vais sortir, je vous fais le pari que j'aurai 10 insultes. Et des insultes violentes. C'est ce que je dis à l'instant. Hein, et si vous voulez, c'est devenu une arme politique, parce que par exemple, moi si je dis un propos critique, j'en ai dit, à l'endroit de M. Macron, mais il y a des boucles WhatsApp, Telegram, de supporters, il n'y a pas d'autre mot, de M. Macron qui vont m'insulter jusqu'à la violence.
Quel candidat n'a pas de cellule riposte, hein.
Non mais d'accord, mais c'est pas anodin. C'est pas anodin que le débat politique soit dégradé à ce point-là. Et quel élu, j'en ai fait partie pendant des décennies, n'a pas eu son lot de menaces.
Bon, est-ce qu'on peut pas faire
et d'intimidation à l'endroit de sa famille.
Bruno Jeudy, est-ce qu'il ne faut pas faire la nuance quand même entre d'un côté, on va dire le...
C'est un continuum.
Le discours parfois violent, le débat musclé, passionné, et la mort du maire de Signes dans le Var, il y a de ça pratiquement 3 ans, Jean-Mathieu Michel. Alors, on lui tuait, mais il en est mort de d'être allé voir des gens qui déversaient illégalement des gravats. Là, c'est dans notre registre.
C'est toujours un peu compliqué de faire le tri parmi les actes de violence à l'endroit des élus. Il y a les violences effectivement qui peuvent être gravissimes. Vous parlez du maire de Signes, mais pour certains parlementaires, entre celui de Saint-Pierre-et-Miquelon ou celui de l'Oise qui s'est fait incendier sa voiture dans son garage, ça prend des proportions tout à fait alarmantes. Et puis il y a évidemment l'insulte verbale, la lettre de menace. Alors aujourd'hui, on n'écrit plus des lettres, mais on va directement sur les réseaux sociaux. Ça a quelque chose aussi peut-être d'encore plus violent, plus massif, parce qu'il y a aussi ce règne de l'anonymat sur les réseaux sociaux qui n'arrange rien. Mais il ne faut pas banaliser cette violence, quelle qu'elle soit. Elle est aussi, j'allais dire, le thermomètre d'une société, hein. Ça bouillonne, ça fracture, on connaît la situation de la France aujourd'hui. Hélas, les élus en sont, et les élus locaux, les élus de base en sont le reflet. Je crois quand même à l'exemplarité. C'est vrai, quand le président, la semaine dernière, agresse les antivax, et encore une fois, j'ai vraiment pas d'accointance avec les non-vaccinés, les antivax, c'est aussi problématique. Il sait parfaitement aussi que son propos va faire tourner la planète média autour de lui. C'est ce qu'il cherchait.
Merci Bruno Jeudy d'être venu nous voir. François Calfon, membre du bureau national du PS, et Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion. Bonne journée à tous les trois.